Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Et ce soir, à 19h30, dans le débat du Club des Idées, on continue de parler du sport. Comment sauver le sport français? On en parle avec nos invités, et notamment Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, chargée des questions de sport. Alors, on évoquait l'importance du sport pour le lien social. C'est vrai que cette absence de sport pour les plus jeunes, ça peut avoir des répercussions négatives sur l'isolement, sur la perte de confiance en soi, sur les trajectoires de certains jeunes, des adolescents, qui, on le sait, quand ils sortent de l'école, ne rentrent pas forcément chez eux. Eh bien, le sport est un vecteur aussi d'occupation pour les éviter de prendre d'autres directions, par exemple.
Alors oui, et effectivement, mais c'est aussi peut-être au-delà de cette question et qui fait référence à la question de la jeunesse qui avait été abordée précédemment. Il ne faut pas non plus oublier que le sport est censé avoir une place prépondérante dans notre société, notamment depuis le moment où on a décidé que la France allait être une terre de sport avec les accueils de grands événements sportifs.
Oui.
Et donc aussi la mise en place d'une diplomatie sportive. Quel est l'intérêt d'accueillir des grands événements sportifs et donc d'être un peu au cœur de l'actualité pendant une double quinzaine
Parler
ou un mois.
Des Jeux olympiques, par exemple.
Des
2024.
Jeux olympiques et paralympiques, ouais. D'une Coupe du monde féminine de football, d'une Coupe masculine de rugby en 2023. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ces événements sportifs pour que ça infuse dans la société, pour que ça bénéficie aux personnes dans les écoles, dans les personnes qui pratiquent de façon tout à fait libre.
Mais avec un enjeu social derrière,
avec,
c'est ça l'objectif.
Avec évidemment un enjeu social et également sanitaire. On a vu un certain nombre de rapports qui ont été publiés au cours des derniers mois, notamment par l'OMS, et qui expliquaient à quel point la pratique sportive, pas forcément une pratique d'élite, mais la pratique sportive régulière, hebdomadaire, était essentielle en termes de prévention de maladies, de pathologies importantes, oui. En termes de liens sociaux, etc. Et donc c'est aussi cet élément politique qu'il faut avoir en tête. Et la réflexion avait été faite tout à l'heure de la comparaison avec la culture et du budget qui était considérablement plus faible au niveau du sport. C'est aussi la trop faible considération au sein des instances françaises du sport en tant que tel et de ses bienfaits.
Alors, deux remarques. Il est intéressant, pour rebondir sur ce que vous dites, de voir que dans les récentes enquêtes menées sur le sujet, les motivations sociales de santé sont le plus souvent mises en avant pour justifier les inscriptions dans les clubs de sport. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Bernard Laporte disait ce matin, chez les anglo-saxons, c'est vrai que le sport est véritablement valorisé à l'école, mais nous, on n'y arrive pas. Pourquoi, Pierre Rondeau, économiste du sport, on n'y arrive pas?
Après, on pourrait aussi relativiser les propos de Bernard Laporte concernant la pratique du sport à l'école, puisqu'on a malgré tout des cours de PS qui sont encore aujourd'hui organisés au sein des écoles.
Oui.
Les écoliers ont toujours accès à certaines infrastructures sportives. Pas toutes, mais certaines. Et il y a encore 5h30 de cours de PS par semaine au collège.
Mais quand vous allez chez les Anglais ou chez les Américains, c'est toute l'après-midi qui est réservée au sport.
Non, mais bien sûr, mais il y a un...
Et d'ailleurs, on peut parvenir à réussir des études supérieures grâce aussi
par
à cette qualité sportive.
Parce que c'est toute la modalité d'organisation des centres de formation en France qui n'ont pas les mêmes types ou les mêmes modalités que ce qu'on peut voir sur le territoire américain ou en Grande-Bretagne. C'est vrai que dans ces pays-là, on va mettre en avant à la fois le corps et l'esprit, un esprit sain dans un corps sain, et on va aussi effectivement mettre en avant la pratique sportive.
Oui. Mais aussi, nous, c'est la dictée, les fables de La Fontaine.
Oui, mais si vous voulez, en gros, si, dans le modèle américain, le financement aussi passe par le privé, en tout cas, soit l'université ou ailleurs, le secteur privé finance le sport. Et lorsque les Américains ou les Anglais, par exemple, pourraient dans le sens de la France, eux-mêmes subissent la crise économique, le sport aussi subit la crise économique. Mais il n'est pas aidé en retour par l'État, puisque l'État s'est dessaisi des pratiques sportives en Angleterre et aux États-Unis et au Canada. Alors qu'en France, malgré tout, même si on peut être attristé par le manque d'efforts faits en faveur du sport, l'État est présent, l'État est là. Emmanuel Macron a reçu les acteurs du sport et a promis certains plans, à mon sens pas assez suffisants, mais un plan de 400 millions d'euros. Vous allez voir les Britanniques. Les Britanniques, aujourd'hui, ils n'ont eu aucune aide de la part de l'État pour la relance du sport amateur comme professionnel.
Mais ils n'ont eu aucune aide nulle part d'ailleurs par rapport à la France, qui est quand même une économie où on soutient et on valorise des pans entiers de notre industrie. Jean-Philippe Assensi, fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport.
Oui, je pense qu'il faut parler aussi des nouveaux métiers, de l'évolution des métiers. Aujourd'hui, beaucoup de villes, beaucoup de collectivités, parce que le sport, il se passe surtout sur le terrain, mettent en place des programmes nouveaux, d'éducation, d'insertion. Donc il y a tout ce pan d'évolution des nouveaux métiers. Nous, on vient de créer un métier qui s'appelle coach d'insertion par le sport, où l'éducateur a un rôle essentiel, notamment sur les publics qui sont en marge, qui sont en difficulté, pas que. Mais aujourd'hui, l'espace sportif est un des derniers espaces où ces jeunes-là sont accueillis, où on fait le lien aussi avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans un champ d'innovation sociale considérable.
Et on est en capacité de le mesurer, ça, la valorisation de l'individu par le biais du sport. Et du coup, la réussite et peut-être l'ascenseur social par la suite.
Tous les maires vous le diront, tous les élus locaux vous diront que le secteur associatif sportif est un des secteurs les plus importants, est essentiel pour l'accompagnement de toute cette jeunesse. Donc, dans le cadre d'un plan de relance, c'est peut-être une nouvelle promesse du sport qu'il faut aussi inventer. C'est peut-être autre chose qu'il faut arriver à aller chercher. Et là, il y a un potentiel depuis des années. Oui. Il y a des fédérations qui travaillent sur le sujet. La Fédération française de voile a monté un projet. La mer est à vous. Il y a des élus locaux, il y a des entreprises. Il faut inventer autre chose que la pratique sportive. Et tout ce qu'on se dit là aujourd'hui, le sport, c'est un des secteurs essentiels pour l'avenir des quartiers, mais pas seulement, mais de notre jeunesse.
Pierre Rondeau. Pour vous dire à quel point le sport est vecteur d'intégration et de mieux-être social et même intellectuel, je dirais, à l'époque où il existait les contrats aidés, qui depuis ont été supprimés par le gouvernement Macron, à l'époque des contrats aidés, les contrats aidés dans le secteur sportif amenaient à deux fois plus de CDI que tous les autres contrats aidés.
60%.
Même 60% en plus que tous les autres contrats aidés. Donc oui, le sport est un vecteur d'intégration, est un vecteur de socialisation et même soutient l'emploi, soutient la personne en elle-même. Donc on parle beaucoup d'économie, de poids économique, de millions dépensés. Pensons aussi aux conséquences sociales et sociétales que va avoir la crise sur la pratique sportive.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conséquences de tout cela, c'est que le nombre d'adhésions et de licenciés est en baisse. Je regardais les chiffres ce matin, déjà de 20%. Avec ce reconfinement, on imagine que ce sera plus. Et c'est autant de bénévoles qui quittent le secteur associatif et qui ne seront pas demain présents pour encadrer les jeunes. Carole Gomez.
Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui va poser question. Et là encore, ça nous ramène quelques mois auparavant où on essayait d'imaginer ce sport d'après. Il y a eu je ne sais combien de tables rondes, d'émissions, de réflexions sur comment est-ce qu'on peut imaginer le sport d'après. Et à mon sens, c'est une réflexion qui n'a pas été suffisamment loin, puisque on regarde aujourd'hui et la situation n'a pas beaucoup évolué. Oui. On fait les mêmes constats. Et donc, c'est aussi quelque part le côté un peu dramatique de la chose. Pour rebondir sur ce que disait Pierre Rondeau, il me semble aussi important de préciser qu'il faut investir dans le sport. Le sport, ce n'est pas simplement une baguette magique qui va permettre de favoriser une intégration, de favoriser un parcours d'une personne. Ça, il va falloir faire un investissement pour pouvoir avoir un retour sur investissement sur ce principe. Et donc là encore, les paroles, les prises de position qui ont pu être faites, le fait que l'on se déclare comme une nation sportive par l'accueil de grands événements sportifs, par des réformes qui se veulent profondes, ça ne doit pas rester uniquement des paroles, mais simplement il faut aussi qu'on passe aux actes et qu'on donne les moyens à ce milieu sportif, aux bénévoles, aux personnes qui travaillent tous les jours dans ces clubs, dans ces quartiers, de vraiment avoir les moyens de réaliser cet effort.
Et dans quelques secondes, on fera le lien avec le sport professionnel, car évidemment, les deux sont liés. Si le sport pro va bien, le sport amateur va bien aussi. On en parle juste après la pause, 19h38. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h39, on continue de parler dans le débat du Club des Idées du sport. Comment sauver le sport français? Le chef de l'État a fait des annonces aujourd'hui après le cri d'alarme lancé par les fédérations de sport. On en parle donc ce soir avec nos invités. Alors c'est vrai, Jean-Philippe Asensi, fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport, j'ai sous les yeux la baisse des licences par fédération sportive entre octobre 2019 et octobre 2020. Sur un an donc, c'est absolument incroyable. Par exemple, sur la lutte, la baisse est de 44%, le judo moins 29%, la natation moins 25%, et ça continue, le basket moins 11%. À chaque fois, ça fait des volumes très importants. Le basket, c'est par exemple moins 51 000 licenciés. Quelles conséquences ça a, très concrètement, ça, sur une fédération?
Très concrètement, on le disait tout à l'heure sur le basket, ça peut être la fin des fédérations. L'épuisement de ces acteurs de terrain qui se sentent complètement démunis. Il faut d'urgence leur permettre...
Mais la fin d'une fédération, ça veut dire que demain, on n'a plus les moyens de faire vivre des petits clubs de basket partout en France pour son ado, pour son enfant ou pour les semi-pros?
Il peut y avoir un plan social, il y a des fédérations qui l'ont dit, mais ce qui est assez terrible localement, c'est que ces clubs qui aujourd'hui sont à l'arrêt, qui sont déjà dans des conditions parfois extrêmement précaires, perdent courage et ne se sentent plus forcément soutenus. Il y a besoin urgemment d'avoir des mesures sur ces clubs qui sont dans des zones prioritaires, déjà, principalement, aujourd'hui, on n'a pas entendu ça. C'est ça qu'on attendait aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la reconnaissance pour ceux qui font le métier le plus dur du sport.
Oui.
L'analogie avec la santé, les infirmières, etc. Aujourd'hui, ceux qui font le plus dur métier dans le sport, c'est dans ces quartiers populaires. Et c'est peut-être une mesure à isoler dans ces quartiers pour toutes ces pratiques sportives.
Alors, il y a simplement une exception qui est assez notable, c'est l'équitation. Ouais. Plus 11,6% de licenciés, ça fait 27 000 licenciés en plus. Est-ce que c'est lié au confinement et aux mesures de distanciation?
Je pense qu'il y a justement sport extérieur qui va rassurer les parents de ne pas être confinés à l'intérieur et sport individuel. On n'est pas, par exemple, vous parlez de la lutte. La lutte, c'est un sport de contact en intérieur. Ouais. Donc, je pense que les parents étaient très apeurés à l'idée d'inscrire leurs enfants dans un sport qui potentiellement pouvait aggraver les risques de contamination.
L'équitation, je parle sous votre contrôle, est un sport, une pratique sportive qui s'est démocratisée.
Démocratisée, bien sûr, avec une augmentation du nombre d'aras en France, effectivement démocratisée.
Beaucoup moins cher maintenant pour se licencier.
Oui, bien sûr. Alors, concernant justement le risque pour les fédérations à plus ou moins long terme, à court terme, effectivement, on parle de coûts économiques. C'est chiffrable. Par exemple, je vous cite une étude du CNOSF, pardon, du Comité National Olympique du Sport Français,
oui,
qui, sur les 160 000 clubs en France, en a interrogé 35 000. Et sur ce panel de 35 000 clubs, chacun donc a répondu à un questionnaire et au total, la perte déclarée est de 375 millions d'euros pour les 35 000 clubs. Donc si vous faites le ratio à 160 000,
ça fait beaucoup d'argent.
On dépasse le milliard en pertes économiques. Donc à court terme, ce niveau des pertes économiques, vous avez raison, qui pourront être rattrapées si demain les gens de nouveau peuvent rejouer au basket, à la lutte, au rugby ou autre. Il n'y aura pas de pertes. Là où c'est plus inquiétant, et on en revient au rapport sociétal, c'est vis-à-vis de la fidélisation. Fidélisation des pratiques et des pratiquants et pratiquantes, mais aussi des bénévoles. Les bénévoles sont indispensables à la gestion et à l'organisation des clubs de sport et des fédérations. Si vous n'accordez plus à la fois de respect mais de temps à ces bénévoles, si vous ne leur accordez pas un statut particulier et une défense de leur situation de bénévole, ces gens-là, tout simplement, vont perdre l'intérêt et la motivation de donner du temps et du temps libre à ces clubs.
Le petit club de foot de quartier, le petit club
qui pourra amener les enfants
du village
sur le terrain municipal du village d'à côté pour aller faire une rencontre sportive. Quel
Donc
parent prendra le temps d'aller
s'occuper? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout le tissu social.
Voilà. Si vous voulez, en gros, les gens continueront à pratiquer un sport demain. C'est pas parce qu'on a une fédération fait faillite qu'elle ne pourra pas renaître de ses cendres. Les gens continueront à pratiquer le basket. Je suis plus inquiet sur la capacité de fidélisation à la fois de la pratique sportive et de la motivation des bénévoles.
L'impact est le même, Carole Gomez, vous êtes directrice de recherche à l'IRIS pour le sport pro. J'ai vu que le basket, le volley, le hockey sur glace ou le hand, par exemple, avaient publié une tribune assez alarmiste. La billetterie, disent-ils, représente près des deux tiers des ressources d'un club. Donc 2 mois de confinement au printemps, plus 2 mois de matchs sans public, c'est ce qu'on vit en ce moment, ça représente 40 millions d'euros de manque à gagner. Quel impact, là, pour ces secteurs?
Alors là aussi, il va falloir un peu de temps pour savoir exactement quelles vont être les conséquences économiques pour ces fédérations, en sachant que là encore, il va y avoir une différence à apporter entre les fédérations, puisque le modèle économique n'est pas forcément le même. Dans le domaine du football, les droits télé ont une part considérable, à la différence, par exemple, du handball ou du basket, où ça va être quelque chose de différent. En revanche, et peut-être si vous me permettez de faire juste un point sur une situation, si on parle beaucoup de sport amateur, si on parle beaucoup de sport professionnel, et ça c'est quelque chose qui était déjà le cas lors du premier confinement, il y a un secteur qui passe assez souvent et trop souvent sous les radars, c'est le sport au féminin. Et le fait que certains championnats masculins continuent, des championnats féminins sont arrêtés, alors que les conditions sanitaires sont les mêmes, c'est les questions de statut qui diffèrent, le côté amateur et le côté professionnel d'un côté. Mais donc ça pose aussi la question de savoir, et c'est ce que je disais tout à l'heure, avec la nécessité de se mettre autour de la table et de penser le sport de demain. Des initiatives ont été menées lors du premier confinement, il y a eu des réflexions qui ont été en cours. C'est bien de vouloir faire ça, c'est encore mieux si c'est une réflexion qui se poursuit et qui surtout aboutit à un certain nombre de résolutions. Pour revenir à votre question sur la question du modèle économique, on sait qu'il n'est pas bon, on sait qu'il est imparfait, on sait que potentiellement on va droit dans le mur sur la question du sport professionnel. Il est sans doute peut-être temps de faire un peu de jus de crâne et de se mettre autour de la table pour essayer de trouver des solutions pour s'en sortir.
Bon. En sachant que... Et on tâche ce soir d'amorcer cette réflexion à notre petit et humble niveau. Jean-Philippe Assensi, vous êtes fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport.
Oui, je pense qu'il y a aussi une forme d'évolution démocratique sur ce qu'on se dit là. C'est-à-dire, il faut écouter bien d'autres acteurs. Il y a bien d'autres acteurs aujourd'hui qui réinventent le sport. Les élus locaux, je parlais tout à l'heure des sports urbains, des éducateurs extraordinaires qu'on ne voit pas assez, qui font un travail de l'ombre, qui sont des piliers pour cette jeunesse. Il faut faire respirer cette démocratie. On a créé, avec le soutien de la ministre des Sports, le mouvement de la performance sociale du sport, avec des fédérations, des entreprises, des collectivités. Il faut faire vivre tout ça. Madame parlait des femmes. Évidemment, on n'a qu'une présidente de fédération française sur les 60. Il faut rénover tout ça
urgemment.
Vous n'avez
pas été consulté aujourd'hui par le président de la République.
Non,
s'il était en face de vous, que lui diriez-vous?
Je lui dirais que ça fait 25 ans qu'on travaille sur le sujet et qu'on a modestement une expertise qui peut être écoutée, et que le sport, c'est bien d'autres choses que de la pratique. Et surtout, dans ces quartiers-là, et je lui dirais que dans le cadre du plan de relance, faisons évoluer cette nouvelle promesse du sport. C'est-à-dire que pourquoi ne pas faire en sorte, par exemple, que le sport prenne sa place, toute sa place sur l'insertion des jeunes. Il y a 1 million de jeunes au chômage aujourd'hui en France. Pourquoi ne pas prendre 10%? Ça voudrait dire 100 000 jeunes, ça voudrait dire 700 millions d'euros. Et je pense qu'ils trouveraient beaucoup d'acteurs, beaucoup de fédérations, beaucoup de collectivités derrière ce grand projet pour la nation.
Pierre Rondeau, il y a vraiment le sentiment aujourd'hui d'un abandon de ce secteur associatif sportif.
Non, on peut pas.
C'est vécu comme ça?
Oui, alors j'imagine qu'en leur sein, je pense qu'ils doivent avoir le sentiment d'être abandonnés. Après, on peut raisonnablement pas le dire. On a effectivement eu des différents plans de relance qui ont été déjà décidés. Je pense notamment au précédent plan de relance de 120 millions d'euros. Aujourd'hui annoncé de 400 millions d'euros, bien que, si je rentre dans le détail, une partie avait déjà été votée par le Parlement, donc avait déjà été intégrée et projetée, et une autre partie n'a pas encore été budgétée, donc on attend de voir ce qui va se passer.
Mais pour tous les gens qui nous écoutent et qui participent à ce sport associatif, ce sport du quotidien, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Peut-être un message d'espoir, quand même.
Je le répète, heureusement, d'ailleurs on l'a observé pendant le confinement, les pratiques sportives, même individualisées et autonomes, ont augmenté. On a constaté pendant le confinement une augmentation de 30% de la pratique sportive. Donc quoi qu'il arrive, les gens continueront à faire un sport. On vit une période extrêmement difficile, il faut aider le secteur sportif pour tout ce qu'il représente, le sport amateur, le sport professionnel, le sport féminin, toutes les disciplines. Mais à l'avenir, quand sera terminé, on pourra de nouveau pratiquer un sport.
Bien, et vive le sport. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans Europe Soir tous les trois et d'avoir parlé de cet appel au secours du sport français.
Europe 1, Julien Bugier.
19h48, vous restez avec nous dans quelques secondes. Les archives d'Europe Soir, et ce soir, en ce 17 novembre, on vous raconte le jour où Georges Besse a été assassiné par Action Directe. À tout de suite.